Nous lirons ensemble la parole de Dieu ce soir en rappelant quelques versets pour certains d'entre eux que nous avons déjà lus. Nous en lirons d'abord quelques-uns au livre du prophète Daniel au chapitre 2. Chapitre 2 du prophète Daniel, verset 31. Toi, ô roi, tu voyais, et voici une grande statue. Cette statue était grande et sa splendeur extraordinaire. Et elle se tint devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Fin du verset 38e. Toi, tu es cette tête d'or. Et après toi s'élèvera un autre royaume inférieur à toi, puis un troisième et autre royaume d'airain qui dominera sur toute la terre. Et le quatrième royaume sera fort comme le fer. De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. En tournant la page, au même chapitre 2, verset 45, « Selon que tu as vu que, de la montagne, la pierre s'est détachée sans main, et qu'elle a broyé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu fait connaître au roi ce qui arrivera ci-après. » Et le songe est certain, et son interprétation est sûre. Même prophète, chapitre 7, nous lisons quelques versets. Premier verset. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Alors il écrivit le songe et raconta la somme des choses. Daniel prit la parole et dit, « Je voyais dans ma vision de nuit, et voici les quatre vents des cieux se déchaînèrent sur la grande mer. Et quatre grandes bêtes montèrent de la mer, différentes l'une de l'autre. La première était comme un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fut soulevée de terre et mise debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. » Verset 17. Ces grandes bêtes, qui sont quatre rois qui surgiront de la terre. Et les saints des lieux très hauts recevront le royaume et posséderont leur royaume à jamais et au siècle des siècles. Alors je désirais de savoir la vérité touchant la quatrième bête qui était différente d'elle toute, extraordinairement terrible. Au verset 23, la quatrième bête sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre et la fourra aux pieds et l'écrasera. Verset 26. Et le jugement s'assiera et on lui ôtera à la bête la domination pour la détruire et la faire périr jusqu'à la fin. Et le royaume et la domination et la grandeur des royaumes sous tous les cieux seront donnés au peuple des saints des lieux très hauts. Son royaume est un royaume éternel, et toutes les nations le serviront et lui obéiront. Et enfin, nous aurons le livre d'Apocalypse et nous en lisons quelques versets, d'abord au chapitre 13. Et je me tins, en lisant la fin du chapitre 12, et je me tins sur le sable de la mer. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance et son trône et un grand pouvoir. Verset 18. Ici est la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence compte le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Enfin, au chapitre 17, au verset 8, la bête que tu as vue était et n'est pas et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Verset 9. Ici est l'entendement qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était, et qui n'est pas, est, elle aussi, un 8e, et elle est d'entre les 7. Et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais recevront pouvoir comme roi 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, donneront leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés, élus et fidèles. Et nous arrêtons là. Nous rappelons, chers amis, très schématiquement ce que nous avons déjà vu ensemble, pour la plupart d'entre nous en tout cas. La prophétie, rien que par la place qu'elle tient dans l'Écriture, est une partie importante de celle-ci. Et l'apôtre Pierre nous en donne la raison et le but. C'est comme une lampe que Dieu nous donne pour nous diriger dans un lieu obscur. Elle nous montre le caractère des choses dans lesquelles nous vivons, ce qu'est le monde, quel est son véritable ressort et quelle est sa fin. La prophétie n'est pas donnée pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous tenir en éveil, pour que nous discernions les pièges dans lesquels Satan voudrait nous faire tomber en nous associant d'une manière ou d'une autre au système du monde sur lequel un jugement terrible est suspendu, jugement d'autant plus sévère que les privilèges du monde chrétien dans lequel nous nous mouvons auront été grands. Lampe qui brille dans un lieu obscur, c'est aussi une marque de confiance de la part de Dieu à l'égard de ses enfants. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Vous remarquez la différence entre les prophètes d'avant la captivité babylonienne, la différence entre eux et les prophètes de la captivité qui prophétisent pendant la captivité, le peuple de Dieu Israël n'étant plus reconnu comme étant son peuple sur la terre. Le trône de Dieu a été ôté de Jérusalem, confié aux nations, la gloire qui remplissait le temple, elle est retournée au ciel. Et il n'y avait plus de remède à l'état déplorable d'Israël, dont l'idolâtrie était parvenue à un point tel que Dieu ne pouvait plus le supporter. Il n'y avait plus de remède, malgré les appels pressants, véhéments des prophètes tels que Jérémie, le dernier sur la scène. Dieu ne reconnaît plus son peuple. Il a écrit sur lui une parole extrêmement douloureuse. Lo ami, plus mon peuple. Plus tard et bientôt, Dieu renouera des relations avec son peuple. Car s'il l'a abandonné, ce n'est que pour un temps. Dieu n'oublie jamais les promesses qu'il a faites. Elles sont sans appel. Dès que la captivité babylonienne est une chose effective, il n'y a plus de prophète pour parler au peuple. Jérémie 2, par exemple, ainsi dit l'Éternel, « Je me souviens de ton commencement, de la grâce de tes fiançailles. Dieu parle au cœur du peuple pour le faire fondre et le ramener à lui. » Ce n'est plus la même chose maintenant. Le prophète ne s'adresse plus au peuple. « L'eau a mis plus mon peuple. » Mais nous avons dit que Dieu n'oublie jamais son peuple. Et il choisit maintenant, il suscite un petit résidu tiré de ce peuple, petit résidu fidèle, tel que Daniel, résidu si réduit qu'il soit, et à qui il va confier ses secrets. C'est un encouragement très grand pour la foi dans tous les temps, sachant que Dieu, s'il condamne le peuple comme tel, dégage de celui-ci un petit résidu duquel Esaïe dira « Si l'Éternel ne nous eût laissé un bien petit résidu, nous aurions été comme Sodome et Gomorre, notre sort eût été scellé définitivement comme celui de Sodome et de Gomorre. » Mais Dieu a maintenu, comme il le fait aujourd'hui, un petit résidu auquel il s'adresse, auquel il aime confier ses secrets. Le grand monarque, Nebuchadnezzar, chef de la première grande monarchie gentille, a vu un songe dont il veut avoir le rappel précis par les sages autour de lui, ne voulant pas qu'il y ait la moindre supercherie pour le tromper. Personne ne peut révéler ce songe. Personne ne peut le dépeindre, ne peut le rappeler au grand roi. C'est une chose impossible. Mais le grand roi devra apprendre que parmi les fils de la captivité, venant de ce peuple qu'il a châtié, qu'il a assujetti, comme il l'a fait des autres nations, ce grand roi devra apprendre pourtant que c'est le peuple de Dieu. Et en représentant de ce peuple, Daniel va pouvoir dire « Il y a un Dieu dans les cieux, Nebuchadnezzar, duquel tout pouvoir découle, qu'il confie à qui il veut. Serait-ce encore au plus vil des hommes, c'est l'affaire de Dieu. Et il y a un grand Dieu maintenant qui va te révéler ce secret. Et ce songe que tu as songé, le voici. » Et Daniel va rappeler devant le roi cette grande statue extraordinaire, terrible, qu'il a vue pendant les visions de la nuit. Symbole du pouvoir dans ce qu'il a de grand, dans ce qu'il a d'imposant pour l'homme. C'est le pouvoir détenu dans ce monde par les grands potentats tels que les hommes le voient côté extérieur. Nous verrons, s'il plaît à Dieu tout à l'heure, comment Dieu nous le montre, mais du côté intérieur, comme il le fait dans les paraboles de Matthieu 13, s'adressant au peuple, s'adressant à Israël, par trois paraboles dépeignant le royaume des cieux dans son caractère extérieur, la statue de Nebuchadnezzar, mais montrant alors dans trois paraboles aux disciples, dans la maison, le véritable caractère interne, réel du royaume des cieux, tel que le Seigneur le dépeint, le révèle pour la foi intelligente. Vous voyez, chose très importante. Alors nous pouvons nous poser la question, on pourrait se poser la question, on pourrait peut-être nous la poser en nous disant, mais sur quelle base pouvez-vous vous appuyer pour affirmer que La tête d'or de cette grande statue, c'est la première grande monarchie gentile. Il n'y avait jamais eu jusque-là un empire qui exerçait l'hégémonie sur la terre habitée comme elle l'est connue jusque-là. Les Assyriens avaient développé leur pouvoir, les Égyptiens également. Ils étaient en rivalité, mais jamais il n'y avait eu un grand chef d'un immense empire qui dominait tous les autres. C'est une chose nouvelle. Depuis que le trône a été ôté de Jérusalem et confié aux gentils. Comment pouvez-vous affirmer que la tête d'or est la première monarchie générale, c'est-à-dire l'empire chaldéen babylonien? Sur quelle base vous appuyez-vous pour dire que la deuxième grande monarchie qui a succédé à la première, c'est l'empire médo-perse? Comment pouvez-vous prouver que la troisième monarchie, c'est l'Empire grec? Et enfin, comment le quatrième empire, empire romain, est bien celui dont il est question dans le prophète? Eh bien, chers amis, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. Vous rendez bien compte que nous ne disons pas cela d'une manière banale. Car si ce n'est pas difficile pour nous, c'est bien parce que le Seigneur nous a aidés en donnant aux frères une sagacité extraordinaire au siècle dernier. Et nous l'avons souvent entendu rappeler, n'y aurait-il que ce fait? Retenons bien cela. Dans un temps de déclin et de grande faiblesse comme celui que nous vivons, mais n'y aurait-il que ce fait? C'est-à-dire la clarté, la lumière projetée sur les vérités prophétiques, n'y aurait-il que cette situation, que cette considération, elle suffirait pour dire véritablement, le Seigneur était avec les frères du commencement pour les éclairer, leur révéler ses pensées qui jusque-là étaient connues imparfaitement. Nous ne voulons pas en dire plus, il suffit de lire certains ouvrages anciens et on pourra voir quel fatras de considération dans lesquels il n'y a pas où prendre pied, à côté de ce que le Seigneur a donné aux frères, ce qui paraît si simple, ce qui paraît si clair, ce qui paraît si rationnel, mais qui est un effet de la lumière que Dieu leur a donnée. Un seul mot, un seul exemple suffit pour nous mettre d'accord. Les 70 semaines. Y a-t-il quelque chose de plus simple aujourd'hui quand nous ouvrons un livre des méditations sur ce sujet, Messager 1904 par exemple, il y a deux livraisons, deux parutions, les 70 semaines. Y a-t-il quelque chose de plus clair? Mais vous pouvez chercher, et nous allons fermer la parenthèse, vous pouvez chercher dans beaucoup d'autres ouvrages, vous verrez tout ce que l'on peut dire sur ces 70 semaines d'année qui font donc 490 ans, toutes les applications que l'on en fait sans que l'on en trouve une qui est celle que Dieu nous a donnée dans sa parole et qu'il a mise en lumière par le moyen de ses chers frères. Alors, répétons rapidement ces quatre grands empires illustrés, montrés dans la statue, en nous basant sur la parole de Dieu et en montrant que ces quatre empires sont montrés de la façon la plus claire, la plus précise, à partir de l'or, à partir de ce qui est précieux, la densité va diminuer au fur et à mesure que nous descendons vers les pieds. La densité va diminuer, la valeur va diminuer. Depuis l'or de la tête, nous allons parvenir à l'argile des orteils. La dégradation du pouvoir au fur et à mesure qu'il s'exerce. Comme tout ce qui a été mis entre les mains des hommes, rien n'a pu être maintenu tel dans la valeur que Dieu l'avait donnée au commencement. De plus, les proportions de la statue correspondent exactement à la durée de ces empires. La tête d'or, nous avons lu cela, chers amis, au verset 38 de ce chapitre 2, « Toi, tu es cette tête d'or. » Et Daniel s'adresse à Nébuchadnezzar, il n'y a donc pas la moindre équivoque, « Toi, Nébuchadnezzar, tu es cette tête d'or. » Tu es donc le chef de ce premier empire qui correspond à la tête d'or de la statue. Et cet empire va durer 70 ans. Nébuchadnezzar son fils et son petit-fils en seront les chefs. Belshazzar, le petit-fils, dont l'histoire si solennelle nous est dépeinte dans ce livre. Nous y venons. Toi, tu es cette tête d'or. Premier empire babylonien sur lequel Nebuchadnezzar est établi. Donc, pas de doute. Premier empire des nations. Dieu dit, tu es cette tête d'or à Nebuchadnezzar. Dieu n'a pas parlé de l'URSS. Dieu n'a pas parlé des USA, si grande que soit leur influence dans le concert des nations. Dieu a parlé de 4 empires, pas de 5 ni de 6. Vous aussi, bien noter cela. Premier empire, empire chaldéen, tête d'or de la statue, 70 ans. Quel est le second empire qui va succéder au premier? C'est Dieu qui nous le dit dans ce même prophète. Nous tournons quelques pages au chapitre 5, dans la communication que Dieu va donner à Daniel encore pour Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui est le détenteur du pouvoir dans ce jour-là, mais la fin de cet empire a sonné. Il a duré 70 ans. Nous n'allons pas nous étendre sur toutes les raisons, sur toutes les conditions. Nous n'avons pas le temps. Nous allons essayer d'être aussi clairs que possible, chers amis, et de voir les choses de façon d'ensemble. Mais il vous appartient de remplir les vides. C'est un sujet d'actualité sans pareil et un sujet du plus haut intérêt pour le cœur qui aime le Seigneur. Car quel est le croyant, quelle est l'épouse qui ne s'intéresserait pas aux conditions de son mari dans ses relations avec l'extérieur? Quelle est l'épouse qui se contenterait de jouir de l'affection de son époux dans les relations domestiques? Si nous nous contentions d'avoir une espérance glorieuse, d'être bientôt avec le Seigneur, ce serait bien insuffisant, car le Seigneur veut nous associer au déploiement de son règne, de son pouvoir qu'il va exercer sur la terre. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde et que nous serons avec le Seigneur admirés dans les saints, glorifiés dans ceux qui auront cru lorsqu'il va descendre du ciel avec ses armées, Apocalypse 19. Est-ce que cela ne fait pas vibrer nos cœurs? Pensez que le Seigneur nous associe à l'exercice de son autorité sur le monde tout entier et qu'il veut nous intéresser à ce que nous allons connaître demain. De plus, quelqu'un disait, et c'est tout à fait vrai, si nous négligeons la vérité prophétique, nous n'aurons pas beaucoup d'intelligence non plus sur la vérité dispensationnelle. Un lecteur attentif de la parole de Dieu sait bien ce que nous voulons dire par là. Si nous négligeons la vérité prophétique, la vérité dispensationnelle, c'est-à-dire tout ce qui a trait au royaume de Dieu, au royaume des cieux et à la parenthèse de l'Église, tout cela sera bien nébuleux pour nous. Alors, quel est ce deuxième empire, chapitre 5? Daniel va dire au roi, au verset 25, « Voici l'écriture qui a été tracée. » Cet homme la lit dans une langue qu'il doit bien connaître, mais il ne peut pas la comprendre. C'est Daniel maintenant qui va lui dire, en quelques mots, cher ami, Dieu n'a pas besoin d'écrire des volumes pour parler de nous, de l'appréciation qu'il a de l'homme. Il dit, comptez, pesez, divisez. Comptez, pesez, manquant de poids, terminé. Voilà 3 mots qui s'écrivent sur la muraille. Et Daniel va nous les préciser de façon éclatante. Et que dit-il? Ce qui nous assure que le deuxième empire, eh bien l'empire médo-perse, la poitrine d'argent, avec les deux bras, vous voyez, articulés sur les Mèdes et sur les Perses, au verset 27, pour faire court, « Tu as été pesé à la balance, tu as été trouvé manquant de poids, Pérès, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. » Pas de doute, le deuxième empire qui succède à Nebuchadnezzar, c'est celui des Mèdes et des Perses, la poitrine et les bras d'argent, il est donné aux Mèdes et aux Perses. Nous n'avons donc pas la moindre hésitation pour affirmer que le deuxième empire est bien celui des Mèdes et des Perses. Le troisième maintenant, nous allons le trouver dans le chapitre 8. Daniel a vu Encore là, une vision extraordinaire. La troisième année du règne de Belshazzar, c'est la troisième année, c'est la dernière année de son règne. Et Daniel, dans ce chapitre 8, nous rapporte une vision très importante qu'il a vue. Et il nous dit au verset 19, et il dit, voici, je te fais connaître, il parle au roi, je te fais connaître ce qui aura lieu à la fin de l'indignation, car à un temps déterminé sera la fin. Le bélier que tu as vu, il avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Revenons à ces rois de Médie et de Perse. Le bélier que tu as vu, il y avait deux cornes, ce sont les rois de Médie et de Perse. Et le bouc velu, qui va infliger une défaite extraordinaire à ce bélier, qui va le terrasser. L'histoire est intéressante à lire dans ce chapitre 8. Le bouc velu, c'est le roi de Javan. Le roi de Javan, et nous savons bien que Javan veut dire la Grèce, donc pas de doute, les rois de Médie et de Perse sont mis de côté pour être remplacés sur la scène par la royauté confiée aux Grecs, c'est-à-dire à Javan. Et le prophète ajoute, la grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi, c'est-à-dire Alexandre le Grand, fils de Philippe de Macédoine, qui va étendre son empire en quelques années de façon extraordinaire. Et arrivé jusqu'au cœur de l'Asie, l'histoire nous dit, arrivé au bord de l'Indus, il dira, quel dommage qu'il n'y ait pas encore un autre empire à conquérir. Il sera d'ailleurs, pour ne pas l'oublier, comparé au léopard qui a quatre ailes sur le dos. Or, il suffit d'ouvrir un livre de sciences naturelles, qu'apprend-on du léopard? C'est l'animal, Dieu sait bien choisir les symboles, c'est l'animal qui bondit de façon prodigieuse, atteignant jusqu'à 115 km/h. Le cheval au galop ne dépasse guère les 60, ni le lièvre. Et cet animal, 115 km/h, lorsqu'il bondit vers sa proie. Et pour renforcer encore l'idée que le symbole nous donne dans le léopard, il a quatre ailes d'oiseau. Eh bien, un symbole extraordinaire d'Alexandre le Grand qui, en quelques années, a étendu son empire comme nul autre ne l'a fait. Mort à 33 ans, en raison de tous les excès qu'il avait commis sans doute. Mais le voici devant nous. La grande corne qui était entre ses yeux, c'est le premier roi. Et qu'elle ait été brisée, et que quatre autres cornes se soit élevé à sa place, les quatre ailes du léopard, c'est que quatre royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Et de ces quatre royaumes, partagés entre ces quatre généraux que l'on appelle les diadoques, deux royaumes vont occuper une place importante sur le champ prophétique, c'est-à-dire le royaume du Nord, les Séleucides, la Syrie, et le royaume du sud, les Ptolémées, l'Égypte. Et le prophète Daniel nous montre quels sont les démêlés entre ces deux royaumes et ce qui les concerne pour le jour dans lequel nous sommes parvenus. Le royaume du Nord étant soutenu, vassal de celui qui est redoutable aujourd'hui, qui comporte un potentiel humain et un potentiel en armes de toutes sortes, qui fait trembler le monde, nous le savons bien. Le prophète Joël nous dit, il n'a jamais eu une nation au potentiel militaire aussi important, aussi écrasant que cet empire du Nord, qui est prêt à remplir le rôle si important qui lui est dévolu dans la prophétie sur la scène finale. Mais cet immense empire est relié, se lie à celui des qui est issu des Séleucides, un des quatre royaumes issus de l'empire grec d'Alexandre. Donc nous avons déjà l'empire chaldéen, l'empire médo-perse, l'empire grec. Nous venons de voir que ce bouc velu, avec ses quatre cornes, c'est bien le royaume de Javan. Pas de doute. Quel est le dernier? Chacun de nous, alors, n'a plus la moindre hésitation, cette bête effrayante. Cette bête terrible du chapitre 7 du prophète Daniel, pour anticiper un peu. C'est une bête effrayante, c'est une bête terrible et extraordinairement puissante. Et elle a 10 cornes, elle est dans une situation de puissance telle que personne ne lui a résisté. Elle a dominé, il est dit au verset 25 de ce chapitre 7, nous l'avons remarqué, ce quatrième empire, donc la quatrième bête, sera un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes et dévorera toute la terre. Il dévorera toute la terre. Nous ouvrons maintenant l'évangile selon Luc et nous allons voir la correspondance pour nous entre cette quatrième bête, entre les jambes de fer de la statue, jambes de fer, qui correspondent donc à cette quatrième bête terrible, bête monstrueuse, et le quatrième empire qui devait se succéder sur la terre. Nous ouvrons l'évangile de Luc au chapitre 2, et nos jeunes amis n'éprouveront aucune peine à reconnaître qu'il s'agit bien là du quatrième empire. Il arriva au chapitre 2, en ces jours-là, qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, César, Caesar, tsar de Russie, c'est toujours le même mot. Qu'un décret fut rendu de la part de César Auguste, César c'est le titre, Auguste c'est le nom de ce premier empereur, portant qu'il fut fait un recensement de toute la terre habitée au jour de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est donc cet empire de fer qui est en scène, et cet homme, César Auguste, détient le pouvoir sur la terre habitée tout entière. Et il édicte un édit selon lequel tous doivent être enregistrés pour être inscrits comme sujets dans cet immense royaume, bête monstrueuse qui a servi toute la terre. Chacun doit avoir son nom inscrit dans ses registres. Alors, nous en arrivons maintenant rapidement au chapitre 7. Nous avons dit que c'était les mêmes éléments, mais maintenant non plus une statue vue en songe par le grand monarque, mais un secret que Dieu va confier à Daniel le prophète, pour Daniel et pour ceux qui avec lui constituent ce petit résidu auquel le Seigneur veut faire part, veut faire connaître toutes les grandes choses qui vont se dérouler sur la terre. Et c'est ainsi que le croyant, si simple qu'il soit, si faible qu'il soit, a reçu aujourd'hui, de la part du Seigneur, une lumière pour ce qui concerne le monde, pour ce qui concerne les nations, que personne dans le monde, si intelligent qu'un homme soit, si versé qu'il soit dans les choses de la politique, personne ne peut connaître, comme l'enfant de Dieu, si simple qu'il est, les secrets de Dieu. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Et un jeune garçon qui lit la parole de Dieu, qui la lit avec le souci de recevoir de la part du Seigneur ce qu'il a voulu nous dire, un jeune enfant va recevoir de la part du Seigneur ce que l'homme politique, le plus éminent qui soit, ne peut en aucune manière recevoir. Cela lui est fermé, quel que soit le degré de son intelligence. Alors, nous venons à Daniel 7, et Daniel nous dit, nous sommes donc environ 65 années plus tard que le songe de la statue. Nous sommes à la fin de cet empire babylonien dont le trône est occupé par Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar. Le prophète Jérémie, chapitre 25, nous dit, eh bien, Babylone sera gouverné par Nebuchadnezzar, son fils et son petit-fils. Nous sommes donc à la fin du règne de Belshazzar, ici dans ce chapitre 7, c'est-à-dire environ 67 ans après que Daniel a eu la révélation concernant cette grande statue, songe que Nebuchadnezzar a vu la première année de son règne. Nous sommes bien d'accord sur ces points, ils sont précisés par le prophète Daniel. Donc 67 ans environ, à une année près, après le songe du chapitre 2, nous voici maintenant avec Daniel, au moment où cet empire va s'écrouler, le Seigneur vient lui dire, Daniel, voilà ce que je veux te révéler quant aux grands empires du monde, dont le premier va disparaître de la scène. Et nous remarquons, chers amis, chose intéressante, que les grands empires, les grands mouvements qui se sont déroulés dans ce monde ont toujours, mais que seule la foi peut discerner, ont toujours Israël comme pivot moteur. C'est en relation avec Israël et c'est en raison de ce que Dieu a conçu pour ce peuple que tous les grands mouvements des nations se sont déroulés dans le monde. Dieu veut châtier son peuple. Au moment où Jérémie se trouve sur la scène, que fait-il? Eh bien, Jérémie nous dit, Dieu va appeler un lion qui était caché dans le fourré. Personne ne soupçonnait, nous pouvons voir le prophète Habacuc, personne ne soupçonnait qu'en quelques années, cet empire babylonien allait culbuter les Assyriens, mettre de côté toute la puissance de l'Égypte et prendre la tête de toutes les nations. Personne ne soupçonnait cela. Mais Dieu avait un lion caché dans le fourré. Et après 70 ans, année qui correspond évidemment à la durée de la captivité babylonienne, 70 ans qui correspondent d'ailleurs à un péché bien précis dont Dieu tire les conclusions, c'est-à-dire les années sabbatiques, dont la terre a été privée, et Moïse avait déjà dit, Lévitique 26, ce que Jérémie confirmera, eh bien, vous en aller bien loin de votre terre pour qu'elle jouisse de ses sabbats. Vous avez frustré Dieu 70 fois une année sabbatique, eh bien, vous allez les restituer toutes ensemble. Et nous prenons la parole de Dieu, nous avons des tables intéressantes entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et nous faisons le compte et nous constatons que depuis l'établissement du royaume au jour de Saül jusqu'à la captivité, il y a 490 ans, il y a 70 fois cette année. Alors, pendant 490 ans, le peuple s'est moqué de Dieu à l'égard d'une année sabbatique. Dieu dit, eh bien maintenant vous irez, entre autres, vous irez à Babylone, vous asseoir au bord du fleuve, et la terre se reposera de ses sabbats. Alors maintenant, nous avons encore un mot à dire sur le chapitre 7 du prophète Daniel. Nous avons dit que tous les grands mouvements des nations, Dieu les coordonne, les dirige en fonction de l'histoire d'Israël. D'ailleurs, c'est bien simple. Un prophète comme Ézéchiel, sous une forme imagée, nous dit, voilà comment Dieu a fait. Je crois que c'est le chapitre 5 du prophète Ézéchiel. Dieu dit, voilà, j'ai planté Jérusalem au centre du monde et j'ai disposé toutes les nations autour d'Israël, autour de Jérusalem. C'est Jérusalem pour Dieu qui est au centre de ce pays de beauté qu'il a choisi, qu'il a mis à part pour son peuple et qu'il lui a donné non pas pour une partie du temps, mais de siècle en siècle. Et quand le Seigneur règnera, ce pays, dans l'étendue qui lui est propre et qu'ils n'ont jamais possédé, en tout cas, s'ils l'ont possédé, c'est très peu de temps au jour de Salomon, et encore imparfaitement, mais dans ces jours-là, ce sera un territoire qui équivaut à 3 fois celui de votre pays, de la France métropolitaine. De la Méditerranée à l'Euphrate, jusqu'au fond du désert, le Liban, tout ce qui est au nord, tout leur appartient. Alors, nous avons la mention dans le chapitre 7 que c'est au même moment, dans la même période, que ces grandes mutations se sont faites, mais qui ne sont apparues que l'une après l'autre. Mais les grands mouvements, illustrés par le vent qui se déchaîne sur la grande mer, ont amené, en quelque sorte, les nations sur la scène, mais qui ne se sont manifestées que plus tard, les unes après les autres. Mais c'est à peu près au même moment, il suffit de bien lire soigneusement un livre d'histoire, que l'Empire babylonien, l'Empire médo-perse, l'Empire grec et même l'Empire romain, c'est à peu près au même moment qu'ils sont sortis de la nuit des temps et des convulsions et des révolutions au centre desquels ils se sont placés. Mais ce n'est que plus tard, au fur et à mesure que Dieu en avait besoin, qu'il a appelé sur la scène chacune de ces nations. Et pour Dieu maintenant, il nous en donne la description de façon extraordinaire. Ce n'est plus la grande statue extraordinaire, terrible, mais ce sont des bêtes, et des bêtes sauvages, des bêtes féroces, mais qui sont tenues en laisse. La première, la tête d'or de la statue, empire babylonien, Nebuchadnezzar, le lion avec des ailes d'aigle. Le roi des animaux, le roi des oiseaux, quel symbole pour nous montrer le pouvoir que Dieu a donné à Nebuchadnezzar, comme il n'a jamais été détenu plus tard par qui que ce soit. La deuxième grande monarchie générale, la poitrine et les bras d'argent, ici, c'est une autre bête. C'est-à-dire, c'est un ours qui s'appuie sur un côté, l'empire médo-perse, avec une tête très lourde, qui annonce déjà ce que les armées perses si lourdes qui s'enfonçaient en coin dans les armées de leurs ennemis, tout ce que cette armée perse allait connaître de succès pour établir sa domination. L'ours, et il tient trois côtes dans sa gueule. Les trois rois de Babylone sont rappelés dans la gueule de cette bête terrible qui tue pour la satisfaction de tuer. Et les trappeurs au Canada autrefois, quand ils parvenaient à retenir un ours dans un piège, cette bête a des réactions tellement terribles que même pris dans le piège, on n'osait pas l'approcher. Quelle précision sous la plume de l'Esprit de Dieu pour nous parler de ce que l'histoire nous a dépeint de ces armées médo-perses avec tous les succès qu'elles ont rencontrés et l'asservissement sous lequel elles ont tenu toutes les nations qu'elles mettaient de côté. Sauf, chose extraordinaire, le premier de ses grands chefs, Cyrus, la première année de son règne, à la tête d'un immense empire de 127 provinces, Dieu incline le cœur des hommes, même des rois, comme des ruisseaux d'eau. Il place dans le cœur de cet homme le souci de promulguer un édit par lequel il rendra la liberté, ce qu'il ne fait pour qui que ce soit, par lequel il rendra la liberté au peuple juif pour remonter à Jérusalem, reconstruire le temple et être là sur la scène pour le moment de la présentation du Seigneur. Vous voyez cet immense empire babylonien culbuté, Dieu suscite un autre empire, celui médo-perse, et c'est toujours en relation et en fonction des desseins que Dieu poursuit à l'égard de son peuple. La troisième bête, nous l'avons déjà vu, c'est le léopard étendu un immense empire. L'empire babylonien avait duré environ 70 ans, l'empire médo-perse environ 2 siècles, l'empire grec environ 2 siècles aussi, pour arriver en 144 avant notre ère à l'établissement d'un contrat, d'un accord entre le Sénat romain et les Juifs qui, s'appuyant sur l'autorité et la protection de Rome, pour se mettre à l'abri de toutes les incursions des Séleucides. Ce qui nous amène au début de l'Empire romain, en 144, dans ses relations avec les Juifs en tout cas, jusqu'à la fin du règne de Constantin, lorsque l'Empire sera partagé entre ses trois fils, cela aura fait environ 450 ans. Nous voilà donc en présence maintenant de cette quatrième bête, dont la parole de Dieu nous parle avec tant de précision. Dans le prophète Daniel, nous n'avons plus beaucoup de temps, allons essayer de ne pas nous attarder sur trop de détails. Dans le prophète Daniel, nous avons l'histoire. Dans l'Apocalypse, nous avons la réalisation. Car, nous l'avons remarqué ensemble, dans le chapitre 2 du prophète Daniel, on peut revenir sur ce détail peut-être, il est intéressant. Au verset 40, « De même que le fer broie et écrase tout, et que le fer brise toutes ces choses, il broiera et brisera. » Quoi ? Mais nous devons là nous arrêter et nous dire, parce que l'histoire le montre, et parce que la parole de Dieu nous instruit à cet égard, qu'il y a une parenthèse très longue qui va s'ouvrir. Parce que le prophète continue, « Selon que tu as vu les pieds et les orteils. » Donc, entre les jambes de fer et les pieds avec leurs orteils, il y a donc une longue période de temps. Les jambes de fer, ce sont donc, représentent donc l'Empire dans sa première phase, lorsqu'il était sur la scène au temps du Seigneur. Une bête terrible qui écrase tout, qui domine tout, qui a servi tous les peuples. Petite notion historique qui est quand même intéressante, nous n'oublions pas que c'est Jules César qui est allé jusqu'en Angleterre à servir ce pays, ce qu'aucune nation moderne, même en possession des moyens les plus puissants, n'a pas pu accomplir. Sur des coquilles de noix, Jules César, depuis le Jutland, est allé en Angleterre et a servi ce pays. C'est l'Empire aux jambes de fer qui écrase tout, qui domine tout. Et nous savons bien, si nous lisons un peu Joseph, qui est assez crédible, qu'il nous raconte ce que le roi Agrippa, dont il est question dans le livre des Actes, disait aux Juifs à Jérusalem, « Mais quelle folie vous entraîne à vous mesurer avec les Romains, mais rien n'a pu les empêcher d'aller dans n'importe quel pays pour vaincre tous les peuples. Si farouches qu'ils soient, si énergiques qu'ils soient, si terribles qu'ils soient, toutes les nations ont dû plier devant eux. Et comment voulez-vous vous mesurer avec les Romains? Mais vous allez au-devant du plus immense désastre qui soit. » Et là, c'était vrai. Mais le destin de Jérusalem se jouait. En l'an 70, Titus, à la tête de ses armées, allait faire le sac de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem. Seigneur avait pleuré sur la ville. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais voyant d'avance ce qu'allait être cet immense désastre, le sac de Jérusalem, plus d'un million de morts. Souvenons-nous de Massada, un millier de Juifs qui se donnent la mort à eux-mêmes pour échapper aux Romains. Quel carnage! Jérusalem, le Seigneur pleurait sur la ville en raison des désastres qu'elle allait connaître. Mais ils avaient dit, chers amis, que son sang soit sur nous et sur nos enfants. Et nous n'oublions pas que l'exemple de Jérusalem, de son sort terrible, est un symbole si sérieux, si solennel, de la fin de la chrétienté. Parce que tout a commencé à Jérusalem, et tout se termine à Jérusalem. L'Église a commencé à Jérusalem, et l'Église responsable trouve sa fin à Jérusalem. Les armées des pays occidentaux, les orteils de la statue qui vont se reformer en unité impériale, leur sort, c'est de faire la dernière phase de la civilisation, tant prisée, tant vantée, la dernière phase de cette civilisation occidentale, aux sources chrétiennes si réelles, c'est de faire la guerre au Seigneur lorsqu'il va descendre du ciel et poser ses pieds sur la montagne des Oliviers. Tout a commencé à Jérusalem et tout se termine à Jérusalem. Cette bête extraordinaire et terrible dans le passé, et elle a cessé pendant un temps de se trouver la première sur la scène, et nous venons maintenant, en terminant, puisque l'heure ne nous permettra pas d'aller bien au-delà, en terminant avec le livre d'Apocalypse, nous allons essayer de souligner quelques traits essentiels. Nous savons bien qu'au chapitre 11 et au verset 16, les 24 anciens célèbrent l'établissement du royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la fin des voies de Dieu dans l'Apocalypse. C'est un verset charnière. Nous n'allons pas plus loin sur le plan prophétique, sur le plan historique, sur le plan à venir. Nous n'allons pas plus loin que ces versets du chapitre 11, verset 16 et suivant. Nous aurons, évidemment, dans le chapitre 21, un aperçu de l'état éternel. Mais nous n'allons pas compliquer le schéma, mais nous n'allons pas plus loin que ce verset du chapitre 11. Le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ est advenu. Et dès lors, nous soulignons bien le royaume du monde de notre Seigneur Jésus-Christ. Car le monde lui appartient. Ce qui faisait dire à William Kelly, chose souvent rappelée, On lui disait, mais cher monsieur Kelly, en homme d'une stature intellectuelle telle que la vôtre, vous auriez pu briller d'un nom extraordinaire dans le monde. Mais de quel monde me parlez-vous? Parce qu'il y a le monde aux mains d'un usurpateur dans lequel nous ne sommes que des étrangers, et il y a le monde habité à venir, Hébreux 2, dont nous parlons. Le monde habité à venir dont nous parlons, c'est le monde en ordre, après que le balai de la destruction aura mis de côté tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu et au caractère du règne de notre Seigneur, règne de paix et de justice. Car il faut qu'il règne, dit Paul. C'est le monde à venir dont nous parlons. Israël, avec les nations, Israël au-dessus des nations, comme l'Église au-dessus de toute principauté et autorité dans les lieux célestes. L'Église au ciel, Israël sur la terre, occupant une place de prééminence, avec Christ qui domine aux cieux comme sur la terre. À partir de ces versets, nous revenons en arrière. Et Dieu va nous donner, à partir du chapitre 11, verset 16, que nous venons de citer, les grands acteurs de la scène finale qui précèdent, dans le rôle qu'ils vont remplir, l'établissement de ce règne. Comme un auteur le fait, un auteur intelligent, il nous raconte toute une histoire, il a cité en passant des faits importants, mais il ne s'attarde pas à nous les développer. Il va ouvrir un chapitre plus tard, pour nous parler de ce qui n'a été qu'effleuré. C'est ainsi que l'Apocalypse procède. Elle nous place devant des faits, et ensuite, Dieu nous donne le développement de ces faits dans des chapitres, dans des parenthèses particulières. Cette structure du livre, elle nous est pas difficile à saisir. Nous avons des écrits d'une qualité extraordinaire. Et quand on lit, nous ne pouvons pas nous empêcher de dire cela. Quand on lit l'Apocalypse, l'étude sur l'Apocalypse qui vient d'être rééditée il y a quelques années, qui date de 1850 environ. Un lecteur intelligent ne peut pas manquer de faire sentir cette pensée en lui, mais comme c'est extraordinaire. Ce qui est écrit, voici 125 ans, 135 ans. Si l'on changeait la date du siècle, on pourrait dire cela a été écrit il y a quelques années. Ses frères avaient reçu de la part du Seigneur une intelligence, une sagacité pour nous montrer le développement du socialisme, tout ce qui n'était encore qu'en germe dans ces jours-là, d'une façon extraordinaire. Il y a des pages de notes, il y a un peu de texte, et puis il y a des pages de notes, elles sont d'une richesse extraordinaire. Alors, nous avons donc les grands acteurs qui nous sont dépeints à partir de ce verset que nous venons de citer, ils sont au nombre de 7. Dans le chapitre 13, nous en avons 2, de la plus haute importance, car ils représentent 2 hommes, ils sont la figure de 2 hommes dont la fin est effroyable. 2 hommes sont montés au ciel sans passer par la mort, Enoch et Élie. Mais 2 hommes vont être précipités dans l'enfer, étant pris les armes à la main contre le Seigneur. Sans passer par la mort, le Seigneur va les jeter dans l'étang de feu. Alors, le Seigneur suppose bien que nous avons lu la parole de Dieu, parce que l'Apocalypse est le dernier livre, évidemment, et il suppose que le lecteur a une connaissance de tout ce qui lui a été révélé précédemment. De sorte que le Seigneur ne nous parle plus d'une quatrième bête, il nous parle de la bête. Il suppose bien que nous avons compris que la première fait partie de l'histoire, la seconde et la troisième, et qu'il n'y en a plus qu'une dont le rôle est encore à venir dans ce qu'elle... Donc, comme il est représenté par les orteils et par les 10 rois, par les 10 cornes que nous avons dans l'Apocalypse. Que celui qui entend, que celui qui lit comprenne, évidemment, nous ne pouvons pas nous étendre sur trop de détails, mais nous retenons que, comme dans le prophète Daniel, surgissant d'une mer déchaînée par les vents qui provoquent cette tempête, c'est-à-dire le déchaînement des passions humaines, les révolutions, les convulsions, à travers ce qui aura lieu demain, comme il en a été dans le passé, cette première bête monte de la mer. C'est-à-dire, ce qu'elle sera demain, dans sa reconstitution, en royaume groupé sous une tête impériale. La bête qui était, qui n'est pas et qui sera présente. C'est-à-dire, elle était dans sa forme impériale au jour de Jean. Jean est exilé à l'île de Patmos, sous le dernier des 12 Césars Domitien. La bête était. Elle était effective dans sa domination, ayant une tête impériale. Elle n'est pas elle a cessé d'exister pendant un temps, mais elle sera présente. Elle n'est pas, elle a été mise de côté sous les coups des barbares, et il en est résulté un certain nombre de rois qui sont issus de l'Empire. La bête a donc existé sous sa forme impériale, et nous l'avons ici, dans le verset 13 du chapitre 17, en tournant la page. Verset 9, « Les sept têtes sont sept montagnes où la femme est assise. Ce sont aussi sept rois. Cinq sont tombés. Au jour de Jean, il y avait cinq formes de gouvernement qui s'étaient déjà succédées. Et l'Esprit de Dieu nous dit, par la plume de Jean, cinq sont tombés, l'un est. C'était donc la forme impériale au jour de Jean. Le chef de cet empire était Domitien. Ensuite, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. C'est, on pensait, Viendé l'affirme, l'Empire, lorsqu'il commence à se reconstituer. Il y a une septième forme qui demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas, elle était au temps de Jean, elle n'est pas à un moment donné, elle est aussi en huitième. Elle a droit à un caractère de huitième, bien qu'elle soit d'entre les sept, car elle aura une forme impériale nouvelle dans un jour à venir, une forme de gouvernement qui a déjà existé dans les sept, mais elle est en huitième quant à son caractère particulier. Il n'y aura jamais eu, faut bien que nous soyons au clair là-dessus, il n'y aura jamais eu d'empire sur la terre dont l'origine, dont la structure, dont la source est Satan. C'est un empire dont le caractère satanique ne fait aucun doute. Elle est d'entre les sept, mais elle est un huitième, car elle aura une forme telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable sur la terre. Elle tient son pouvoir, sa puissance de Satan, qui a pris ses diadèmes et qui les a placés sur les cornes de la bête. Elle était au temps de Jean, elle n'est pas pendant un moment de son existence, les dix rois ont existé sans la tête impériale, mais demain, les dix rois vont donner leur pouvoir, leur puissance et leur territoire à la bête, de telle sorte que ce sera une forme nouvelle qui n'a jamais existé dans le passé, tête impériale coiffant dix royaumes, dix rois, dix formes de gouvernement qui abandonneront entièrement leur pouvoir et leur puissance à cette bête. Et la parole de Dieu nous dit, elle a un chiffre qui ne laisse aucun doute quant à l'intelligence de ceux qui demain seront en présence de ces manifestations effroyables. Son chiffre, c'est 666. C'est-à-dire, 5, le chiffre de l'homme, qui se surpasse, mais qui ne peut pas arriver au chiffre 7 qui est la perfection. C'est l'homme qui se déifie. 5 plus 1, multiplié par 3, 666. Celui qui a de l'intelligence demain pourra dire, eh bien, voilà, cette organisation qui remplit les hommes d'admiration, dernière phase du développement de l'humanité, la voilà, cette organisation, dans son chef. Le nombre est 666, il sera révélé aux sages demain. Dernier mot, Jean-Baptiste Rossier, père de notre cher devancier Henri Rossier, a donné quelques notions sur la valeur des nombres dans la parole de Dieu, des chiffres. Alors il nous dit 666, c'est le chiffre de l'homme, porté à sa déification. Mais quel est le chiffre de notre Seigneur Jésus-Christ? La valeur numéraire des lettres qui composent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on le lit, chers amis, ah, on en reçoit une impression extraordinaire. Le chiffre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est 888. Au-delà de la perfection, au-delà du 7, 888, pour nous introduire dans la gloire céleste, où il occupe la place suprême. Et enfin, dernier mot, nous asseyons. Quelle est la fin de cet immense empire qui sera reconstitué, qui sort de la mer et qui aura une force extraordinaire, un potentiel économique, un potentiel militaire, un potentiel de ressources qui feront que les hommes diront maintenant, nous sommes parvenus à l'apogée de notre civilisation. Nous n'avons plus rien à craindre. C'est alors qu'une subite destruction tombera sur eux. Et quelle est la dernière phase de leur développement? Les armes qui sont fabriquées aujourd'hui. Les armes les plus terribles, les plus sophistiquées. Nous sommes assis chacun sur une quantité d'explosifs effroyables. Et il y a assez d'engins nucléaires que pour faire disparaître plusieurs fois la totalité des hommes sur la Terre. Toutes ces armes demain seront utilisées. Ils emploieront ces armes contre le Seigneur pour l'empêcher d'établir son règne. C'est la dernière carte que Satan jouera. Mais, est-il dit, l'agneau, celui qui a été immolé, celui dont le sang a été répandu, et qui est offert encore aujourd'hui en salut à celui qui entend, afin d'échapper à ces jugements terribles qui sont suspendus sur ce monde. L'agneau de Dieu les vaincra, car c'est lui que Dieu a établi, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et il n'est pas seul, ceux qui sont avec lui, est-il dit, vous avez remarqué les trois termes, appelé, élu et fidèle. Alors nous posons la question en nous asseyant. Est-ce que chaque croyant peut dire qu'il a été appelé? Sans aucun doute. Aux appelés de Jésus-Christ, Épître aux Romains, nous avons été appelés, nous avons été prédestinés, nous avons été appelés, nous avons été justifiés. Chacun des croyants peut dire, j'ai été appelé par Dieu. Le deuxième terme, c'est élu. Est-ce que chaque croyant peut dire qu'il a été élu? Sans aucun doute, sans équivoque aucune. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, selon qu'il nous a élus en lui pour nous adopter pour lui. Nous avons été élus pour être adoptés comme enfants. Nous avons été appelés, nous avons été élus. Le troisième terme, c'est fidèle. Cela veut dire que chacun doit savoir si il a droit à ce titre d'élu, d'appelé et de fidèle. Chacun de nous doit pouvoir répondre. Mais ceux qui descendent avec le Seigneur du ciel sont des élus, sont des appelés, sont des fidèles. À nous de savoir si nous réunissons ces trois titres.